Salut à tous et bienvenue dans Tech Café, c'est l'épisode 34 que nous enregistrons aujourd'hui, le jeudi 1er septembre 2016. Salut à tous, je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez pour un nouvel épisode de Tech Café et je suis accompagné de deux vieux de la vieille de Tech Café. Alors bien entendu, Cédric est toujours de la partie. Salut Cédric, comment vas-tu ?
Salut, et je vais très très bien, ravi de vous retrouver pour cette rentrée de Tech Café.
Un grand plaisir. Alors on enregistre nous là à 12h50, c'est une petite première puisque je n'ai pas à souvenir avoir enregistré Tech Café en journée. Et alors pour l'anecdote, en plus on a le plaisir de retrouver Pierre-Olivier. Et alors toi, il n'est pas midi du coup, donc tu t'es levé très tôt pour Tech Café, Pierre-Olivier.
Exact, il n'est pas vraiment midi, le soleil n'est pas vraiment haut dans le ciel puisqu'il est 6h50 du matin et que j'ai des valises plein les yeux.
Merci beaucoup de nous rejoindre pour cet épisode, Pierre-Olivier. Ça montre ta détermination à participer à Tech Café. Merci beaucoup. Je suis sûr qu'il va être en forme pour toute la journée avec tout ça. Bon, du coup, on va faire très rapidement.
Oh, parce oui, c'est certain.
On a tous un timing du coup à respecter. On va essayer d'enchaîner ça de manière très professionnelle et très rapide. On va revenir, Cédric, je te propose, via le blog, via les réseaux sociaux, via les prochains épisodes, sur le produit en test à gagner du moment, puisqu'on a un petit peu avancé dessus, mais je pense que ça s'oriente sur un smartphone. Donc restez abonnés et continuez à nous suivre. Vous allez voir ça arriver rapidement. Un petit follow-up qui me laisse l'occasion de vous poser la question, puisque j'ai pas eu l'occasion de vous poser à l'antenne la question. Pokémon Go, on en avait parlé dans le précédent épisode. Bon, ça fait peur, hein, à Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation en France, qui a peur qu'il y ait trop de Pokémon rares dans les écoles. Ça fait peur à l'armée. Et en même temps, le jeu commence doucement mais sûrement à décliner en termes de nombre d'utilisateurs. Bon, c'était un petit peu prévisible, même si ça s'est pas écroulé non plus. Pierre-Olivier, est-ce que tu joues à Pokémon Go ?
Niveau 21.
Ah, bah niveau bravo, oui, donc ça répond à la question, très bien. Une petite remarque par rapport à ce qu'on vient de se dire, ça te paraît, que ce soit la baisse du nombre d'utilisateurs ou par rapport aux implications que ça peut avoir dans la vie au quotidien ?
Bah, la baisse du nombre d'utilisateurs, c'est-à-dire que bon, quand t'as la moitié de la planète qui joue, ça peut plus trop monter, hein, quand même. Donc tout ce qui monte redescend, c'est la loi de la gravité. Et sinon, bah sur les implications que ça a, moi ce que je trouve dommage de la part de beaucoup de journalistes ou autres analystes, on va dire. C'est juste que ça manque pas mal de profondeur dans les critiques, parce que oui, il y a pas mal de choses à redire, et puis d'une façon générale, le thème, c'est là, est-ce qu'il y a un droit de la propriété dans l'espace virtuel quand il représente le monde physique ou pas. Il y a déjà eu des débats sur le sujet avec Second Life, il y a déjà eu des procès sur le droit des marques dans l'espace virtuel, donc le droit de la propriété, c'est pas stupide complètement, plutôt que de parler de ce genre de choses et de donner un petit peu de profondeur au débat, en général, on préfère raconter l'histoire du mec qui allait dans un champ de mine pour attraper un Pikachu, quitte à complètement obstruer le fait que c'est un fake total. Donc voilà, je suis un peu déçu sur l'emballement médiatique. Je pense que là-dessus, les journalistes ont été beaucoup plus victimes de la bulle Pokémon que les utilisateurs.
Concernant d'ailleurs l'école, on peut se dire que si jamais les gamins ont du temps à passer, à mon avis, ça va pas être en termes de pourcentage en grande majorité sur Pokémon Go. Ils ont bien d'autres choses à faire avec leur smartphone et ça va être difficile à bloquer.
C'est clair.
Cédric, tu joues, tu t'es niveau combien toi ?
J'ai arrêté au niveau 13, donc j'ai joué un peu et puis j'ai lâché. Alors mon téléphone m'ayant lâché et ayant venu, il est venu épouser le parquet. Enfin, c'est pas vraiment un parquet, un truc un peu merdique qui faisait que franchement le téléphone était plus inutilisable. J'ai été contraint d'arrêter. Et puis en fait, je me voyais pas rentrer dans un jeu à aller chercher les 150 Pokémon d'aujourd'hui, mais les 700 demain. Enfin voilà, l'intérêt du jeu, je l'ai trouvé assez vite limité. Et même s'il y a un engouement, c'est rigolo, le côté collègue ou en famille. Voilà, mais en tout cas, j'ai pas envie d'investir ce temps-là dans un jeu à fortiori sur téléphone.
Ouais, ça restera, je pense, désormais bien installé comme étant un compagnon de trajet. Dès qu'on va faire un petit trajet à pied, je suis à peu près, ou en vélo d'ailleurs, ou en transport en commun, je suis à peu près persuadé que tout le monde de ceux qui le lançaient continueront à le lancer en bonne majorité, mais ça va évidemment décroître. Allez, premier sujet de ce Tech Café. En ce moment, vous n'êtes pas sans avoir peut-être vu passer le fait que Apple est se faisait rappeler à l'ordre par l'Union européenne concernant des impôts non payés. Et oui, ils ont peut-être une phobie administrative, mais il semblerait qu'ils aient pas payé leurs impôts. Alors, en quelques mots, très rapidement, ce qui se passe, hein, c'est lié à la domiciliation du siège d'Apple en Europe, en Irlande. Et encore une fois, je vais présenter les choses avec mes mots, et puis vous n'hésiterez pas, je pense, à me corriger ou à compléter ce que je vais lister. Mais grosso modo, c'est le siège d'Apple en Irlande qui a été pointé du doigt comme du coup ne payant pas forcément les impôts à la hauteur de ce qu'il devrait payer si on suivrait bien toutes les règles, parce que il y a un phénomène d'entente qui ne concerne pas qu'Apple et qui ne concerne pas que l'Irlande, mais en l'occurrence c'est ce qui nous intéresse, qui fait que les impôts sont en gros déterminés à l'avance pour des montants pour lesquels les deux parties tombent d'accord, qui sont bien en dessous des sommes qui sont évaluées par l'Europe. Et puis, jusque-là, ça plaisait à tout le monde, puisque Apple était bien content de ne pas payer plus d'impôts que ça. De l'autre côté, l'Irlande se sert de ça comme étant une vitrine pour l'emploi, en montrant « Venez, entreprise, vous payez très peu d'impôts, regardez, Apple ne paye que quelques millions. » Et on peut comprendre que ce soit attirant. Et l'Union européenne met son nez là-dedans, et la Commission européenne a condamné Apple à rembourser plus de 13 milliards d'euros à l'Irlande. Alors, ce qui est assez cocasse, c'est que, évidemment, Apple n'a pas du tout envie de payer 13 milliards d'euros. Non pas qu'il les ait pas, hein. Je pense que c'est pas une question de les avoir ou de pas les avoir.
En l'occurrence, ils les ont.
En l'occurrence, ils les ont largement. Mais, on peut comprendre aussi qu'on ait envie de freiner avant de faire un chèque avec autant de zéros. Ça fait très Instagram, si je me trompe pas, c'est pas rien. Et puis, de l'autre côté, l'Irlande, non plus, n'a pas envie d'encaisser cet argent parce que ce serait, encore une fois, salir cette vitrine de l'emploi et de l'imposition des entreprises en Irlande, évidemment très très faible. Pierre-Olivier, est-ce que tu peux me corriger, me compléter et me donner évidemment ton sentiment par rapport à tout ça ?
Je vais te compléter parce qu'il y a eu des mises à jour depuis. Finalement, le gouvernement irlandais est pas si sûr que, tu sais, c'est parce que 13 milliards d'euros, quand on n'a pas parlé avec tes copains avant d'ouvrir ta gueule, ça divise du monde. Tu sais, c'est un peu comme quand tu montes une boîte et puis que les gens ils disent on s'arrêtera quand faut que tu définisses le succès avant, parce que sinon tu auras plus de copains. Et au gouvernement irlandais, c'est exactement ce qui se passe. Sinon, pour rajouter aussi des compléments d'information, le grief que l'Union européenne a contre l'Irlande là-dessus, c'est qu'en fait, ces accords un à un avec les entreprises constituent des subventions illégales, puisque finalement, une remise d'impôt ou de l'argent qu'on te donne, ça revient au même aux yeux de l'Union européenne. Et que pour le moment, tous les pays européens rigolent parce que c'est sûr que l'Irlande est un petit peu le tremplin européen pour beaucoup de boîtes américaines. Ceci dit, je me rappelle pas la dernière fois que Disneyland Paris a payé des impôts, et je suis pas certain que tous les autres pays européens arrivent pas à leur tour devant ce genre de situation aussi, parce que les cadeaux fiscaux, y a pas juste l'Irlande qui les fait.
Ce qui était en train de souligner, c'est le fait qu'on s'appelle Apple ou Google et qu'on soit aussi puissant, et aussi peut-être omniprésent dans la vie au quotidien. C'est un élément qui permet de pointer du doigt, et c'est, en gros, ça sert d'exemple, c'est ça que tu veux dire ?
C'est un peu ça. Et il y a beaucoup d'autres entreprises qui sont dans le cas de figure. Ceci dit, là où Apple est pas très malin, c'est que Google a quand même beaucoup plus de possibilités d'échapper à l'impôt, dans la mesure où la plupart des services qu'il vend sont virtuels, et que donc on peut pas forcément considérer qu'il y a un établissement sérieux et durable qui vend ses services en France, en Allemagne, en République tchèque, en Croatie. Là où Apple, finalement, vend des biens physiques, qu'il est bien difficile de faire croire aux autorités fiscales que non, mais tout ça est acheté dans notre magasin à Dublin, pas de problème. Apple est le premier à se faire taper dessus, mais il y en aura d'autres. Apple est le plus facile à attraper.
Cédric, tu vois ça sous un œil amusé, ou au contraire, ça te met en colère ? Quelle réaction ça te provoque ?
Ben, non, mais c'est assez ambigu comme situation. Il y a plusieurs aspects. Il y a une logique de souveraineté nationale. Est-ce que l'Irlande a le droit de faire ce qu'elle veut avec ses impôts? Et en fait, là, la Commission européenne attaque sur l'aide, enfin sur l'axe des aides d'État déguisées, parce qu'il y a un enjeu depuis quelque temps dans la Commission européenne d'aller chercher ces grosses entreprises, soit pour des raisons de monopole, soit pour, enfin, on l'a vu avec Microsoft, on l'a vu avec Google, là c'est Apple, mais enfin, en tout cas, il y a une volonté d'essayer de réglementer ces éléments-là. Et puis, il y a un sujet qui est... Enfin, comment dire, ces entreprises-là qu'on monte souvent du doigt, on pense à Airbnb qui paye finalement assez peu de taxes, on pense à Google, on en a parlé, génèrent un cash assez important avec objectivement une activité qui est établie dans ces pays-là et dans la plupart des pays européens. Quand on voit Google France, toutes les AdWords pour prendre ne serait-ce que cet exemple-là, que paye l'ensemble des entreprises françaises, il y a une vraie activité économique qui est sur le sol français pour les entreprises françaises. Après, c'est peut-être un serveur aux États-Unis, mais sur le fond, il y a quand même quelque chose. Et dans un contexte de crise important dans lequel chacun cherche de l'argent, et c'est là où en Irlande effectivement ils disent 13 milliards finalement, c'est peut-être pas, enfin peut-être les regarder un petit peu, c'est aussi, ça commence à être scandaleux d'avoir des gens qui font autant d'argent et qui payent pas d'impôts. C'est pas tant de faire de l'argent, c'est surtout de faire de l'argent et de pas payer d'impôts, ou très peu, ou de tout faire pour en payer le minimum possible. Donc il y a ce scandale là la même manière qu'on peut critiquer un politique qui est pas clair par rapport à sa déclaration fiscale, des porte-étendards comme ça, des marques que les gens aiment plutôt, comme Apple, Google ou d'autres, se doivent d'être essayer de rentrer un peu plus dans le rang, mais il y a un vrai sujet d'image de marque derrière et d'équité entre toutes les entreprises finalement.
Et puis, par rapport à tout ça, on peut aussi aller regarder l'infographie là, de la Commission européenne qui circule à peu près sur tous les sites d'info du sujet, qui relaient le sujet. Il y a aussi cette mécanique avec l'affectation de presque tous les bénéfices à un siège n'existant que sur papier et qui éludent l'impôt et qui sont situés dans des paradis fiscaux. C'est vraiment des mécaniques pas jolies jolies, quoi. Et pour l'image de marque, c'est pas classe, effectivement. À suivre, en tout cas. Et puis, ça arrive quelques jours avant, alors selon certains ça tombe bien, selon certains ça tombe mal, cette info tombe à quelques jours de l'annonce de l'iPhone 7, donc l'iPhone 7 va être présenté le 7 septembre, voyez-vous ça. On va évidemment pas faire le tour des rumeurs parce que c'est pas forcément hyper intéressant. Au-delà de ça, un des éléments a priori emblématiques qu'on a perçu jusque-là de l'iPhone 7, c'est l'abandon de la prise jack. C'est quand même un élément, un composant qu'on voyait depuis très longtemps, avant même les smartphones être présents sur beaucoup de nos appareils. Cette bonne vieille prise jack qui va, a priori, si les rumeurs se confirment, mourir, au profit de, vraisemblablement, d'écouteurs sans fil ou d'adaptateurs qui passeront par, concernant l'iPhone, la prise Lightning, donc des petits adaptateurs qui vont nous être vendus pour une somme, à mon avis, dérisoire. Et puis, évidemment, tout ça, c'est pas exclusif à l'iPhone. Cette mécanique de faire disparaître la prise jack va vraisemblablement arriver avec les smartphones, avec la norme USB-C, telle que c'est relayé. Vous aurez les liens vers les articles dans les notes de l'émission, évidemment. Pierre-Olivier, est-ce que tu t'y attaches vraiment jalousement à ta prise jack, ou est-ce que tu te dis que c'est vraiment une verrue sur ton smartphone et que demain tu pourras l'abandonner?
Moi, mon premier smartphone sous Android, il avait pas de prise jack, on devait avoir des écouteurs en mini USB et c'était vraiment de la merde. Et là, en ce moment, je suis en train de faire le podcast avec mon téléphone, un casque en Bluetooth, avec une prise jack et le fucking câble USB pour continuer de le charger pendant que je fais ça, exactement comme quand j'écoute un film dans l'avion ou dans plein d'autres situations où j'ai besoin du courant et de mon casque. Et non, je suis pas prêt d'utiliser un casque Bluetooth que je dois charger tous les matins. Je veux une connectique. Je m'en fous que ce soit le jack ou autre chose, mais je veux une connectique sur mon téléphone qui me permette de écharger. Et s'il vous plaît, arrêtez Motorola, Apple, tous les autres, tous ceux qui imaginent que c'est une bonne idée, c'est stupide.
Cédric, de ton côté, est-ce que tu es prêt à t'en passer de cette prise jack ?
Alors moi, il se trouve que j'ai le casque Bluetooth Plantronix qu'on a fait gagner dans Tech Café, dans un Tech Café précédent, donc qui est en Bluetooth et avec un câble jack. Alors en toute honnêteté, j'ai paumé le câble jack, donc en fait, je l'utilise en Bluetooth et avec une durée de charge disponible pendant 24 heures. Finalement, on a assez peu besoin de le recharger. Mais là, typiquement, je l'avais pas sous la main. J'utilise un casque normal et c'est vrai que c'est vachement emmerdant. Alors en même temps, des rupture technologique comme ça, alors c'est pas une vraie rupture, mais en tout cas des évolutions technologiques et des évolutions des normes d'usage, pour pas parler des normes tout court, il y a que des grosses boîtes qui peuvent le faire. C'est-à-dire qu'à un moment, quand Apple met un lecteur d'empreintes digitales, tout le monde suit parce que ça devient un usage. Quand Apple va supprimer son jack, finalement, les autres vont suivre. Donc ça fait évoluer les usages. Donc je pense que ça a du sens. Et en même temps, l'argument de je limite un maximum de ports comme ils l'ont fait sur un certain nombre de terminaux, je trouve ça. Il pense pas tout à fait à l'usage. Enfin, le design est peut-être un peu trop sur un piédestal au vu de l'usage et notamment l'exemple que donnait Pierre-Olivier.
Bah surtout que les économies, enfin les bénéfices apportés par l'abandon de cette prise jack. Allez, ça va être quoi? Ça va être j'en sais rien d'ailleurs. A priori, c'est même pas gagné en finesse puisqu'il y a des appareils aujourd'hui qui n'ont pas de prise jack et qui sont aussi épais. Je crois que l'iPod Touch est à peu près de la même épaisseur et n'a pas de prise jack. Ou je dis peut-être une bêtise. Il y a un appareil en tout cas qui montre que vraiment c'est pas comme ça qu'on va gagner de la finesse. Je pense pas que ce soit ça non plus qui consomme de la batterie. Bien au contraire, je pense que ça prend beaucoup plus de batterie d'utiliser des casques Bluetooth et sans fil. Donc je vois pas trop le bénéfice. Après, soyons peut-être patients, essayons de voir la façon dont c'est implémenté, et peut-être que ça va être bien pensé, messieurs. Peut-être qu'on va avoir un super adaptateur pas cher, fourni gratuitement, qui nous permettra de tout faire bien. Non,
bon. C'est vraiment le genre d'Apple en plus.
Allez, on verra ce que ça donne. En tout cas, les smartphones évolueront vraisemblablement pas plus que ça. On en a parlé à plusieurs reprises dans Tech Café, que ce soit d'ailleurs les iPhones ou les smartphones de différents constructeurs. Certains vont évidemment probablement crier en disant « Ah, tu te rends pas compte, tel constructeur, ce qu'ils ont fait, c'est génial. » Alors c'est vrai, de manière générale, il y a des choses qui arrivent, mais ce ne sont pas des bouleversements des usages sur cette catégorie d'appareils, comme c'est le cas d'ailleurs sur les tablettes. Est-ce que les smartphones sont condamnés à plus franchement évoluer? Là, a priori, donc on nous parle de l'abandon de la prise jack, on ne sait pas tout, hein, c'est des rumeurs, de double capteurs qui sont probablement très très bien, mais finalement, c'est pas des révolutions. Est-ce qu'on n'est pas en train de voir, Pierre-Olivier, la fin de l'innovation et de l'âge d'or du smartphone?
C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est exactement comme un laptop. Et puis, un laptop, il n'y a pas 30 000 trucs de cool tous les ans.
En même temps, il y a encore des points qui sont vachement améliorés sur les smartphones, notamment la batterie, qui est encore l'un des points noirs. Enfin, typiquement, si Pierre-Olivier doit recharger par USB en écoutant un smartphone, c'est que manifestement, il y a un problème de batterie. Ou alors qu'il a oublié de le recharger, mais enfin... Je pense que ça n'arrive pas.
Je suis d'accord, mais sur mon laptop, j'ai eu des problèmes de batterie pendant des années, et puis il a fallu... ça a pris plusieurs années avant qu'il commence à y avoir des modèles avec 6-7 heures de batterie, mais sinon c'était 2h30, puis t'es...
Oui, carrément. Mais si tu veux, je pense qu'il faut arrêter de chercher l'innovation pour le plaisir de vendre, ou de rajouter du stockage comme va le faire Apple avec une version à 256 Go à plus de 1000 $, où là on est dans... Dans les noms, c'est de la fausse innovation. Je pense qu'il y a des recherches intéressantes à mener sur les batteries. Guillaume Poggiaspala en parle régulièrement dans Tech Café sur des batteries du futur pour être chargées plus vite ou à plus grande capacité. Je pense qu'il y a dans l'usage des choses à améliorer avec un form factor qui finalement n'évolue pas beaucoup parce que un peu comme on parlait à l'époque de tablette café, une tablette en général c'est carré ou rectangulaire, c'est un machin qui est tactile et à part changer un peu la finesse ou le nombre de connectiques, il n'y a pas grand chose qui peut évoluer sur une tablette. Le smartphone c'est un peu la même chose. Donc, mais je pense que dans l'usage, dans l'applicatif, il y a des choses intéressantes à faire, d'innovation, et c'est pas très grave si on rajoute pas 40 appareils photo au dos de l'appareil.
On va tout de suite passer à une autre rubrique. On va aller explorer du côté de ce qui se passe du côté des réseaux sociaux. Alors pas de gros bouleversements, mais quelques petites anecdotes qu'on pouvait relayer. Et puis peut-être que vous voudrez réagir, Pierre-Olivier ou Cédric. L'algorithme des trending topics de Facebook a été piégé. Facebook effectivement avait mis en place cette fonctionnalité des trending topics, hein, qui n'est pas dispo en France, mais qui est dispo aux États-Unis. Enfin, qui est dispo sur la version américaine de Facebook. Et ils avaient été accusés de sélectionner un petit peu la nature des sujets qui étaient mis en trending topic, en tendance. Et bien évidemment, la curation étant humaine, on peut évidemment imaginer, consciemment ou inconsciemment, qu'il y avait une influence. Et du coup, Facebook a fait évoluer ce dispositif puisqu'ils ont carrément viré tous les ingénieurs, toutes les personnes qui faisaient cette curation au profit d'ingénieurs qui ont mis en place un algorithme qui fait le choix à leur place. Et en fait, petit souci cette semaine, il y a un canular qui est venu se placer en tête des trending topics de Facebook parce qu'il avait été forcément partagé. Évidemment, on voit tout de suite, on pointe du doigt limite de l'algorithme. Et pour autant, qu'est-ce qu'on préfère dans ce bas monde ? Est-ce qu'on préfère des algorithmes qui peuvent se faire piéger, qui sont peut-être imparfaits, ou une curation humaine ? Est-ce qu'ils font un mix des deux ? Ça me rappelle un petit peu le débat, la vision que peut avoir Apple sur la curation de contenu de musique versus des acteurs comme par exemple Google qui propose Google Play Music. Eux, c'est vraiment du 100% machine qui vous propose des contenus. J'exagère à peine. Et Apple, c'est du 100% humain qui va vous faire des sélections de playlists. Qu'est-ce qu'il faut choisir dans ce bas monde ? Est-ce qu'il y a une solution parfaite, Pierre-Olivier ?
Alors avant, je voulais juste réagir que justement, Facebook, avant, ils utilisaient une solution hybride. C'était un algo qui remontait les trending topics et ensuite, c'était filtré par des humains qui avait pour mission de filtrer le fake. Et le truc, c'est qu'en fait, on les avait accusés de favoriser les sites d'information dits libéraux versus les sites d'information dits conservateurs. Or, il se trouve que c'est un fait politique prouvé, documenté et étudié que, en ce moment, au Parti conservateur, on n'est pas trop fort pour aller dire la vérité. On aime beaucoup les pistes conspirationnistes. D'ailleurs, Hillary Clinton est très malade. Elle va mourir demain. C'est mon frère qui me l'a dit. Et Obama, de toute façon, c'est le chef d'Al-Qaïda. Donc, du coup, il y a eu Zuckerberg, il a dit, vas-y, on s'en crisse, on va virer tout le monde, on va mettre des algos. Et c'est eux qui vont faire le job. Et puis maintenant, c'est un canular qui est rentré en trending. Bah oui, il est fucking trending. C'est vrai. Je veux dire. Pour moi, c'est exactement comme il y a quelques années en France, il y avait une prof de Sciences Po qui avait voulu montrer que Wikipédia c'était pas fiable. Donc elle avait demandé à toute sa classe de faire plein de modifications pour que les articles soient faux. Et puis en fait, Sciences Po s'était juste fait bannir de Wikipédia. Ça avait duré 90 minutes, quelque chose comme ça. Et donc du coup, aucun article n'était faux de tout ce qu'ils avaient édité. Tout avait été revert sous les 90 minutes. Ce que cette nana avait juste prouvé, donc, c'est que Wikipédia, ça marchait très bien. Et là, on est exactement dans cette absurdie-là. C'est genre, ouais, c'est pas bien. Ouais, mais du coup, c'est pas bien non plus. Mais enfin, bon, qu'est-ce que tu veux, quoi, en fait, à la fin.
Cédric.
Et puis pardon, enfin c'est pas quand même un sujet très récent. Là on parle de Facebook, mais le Google bombing c'est aussi vieux que Google et les c'est pas des trending topics, mais les hashtags qui montent en haut de Twitter, c'est pareil, ça se pirate entre guillemets, enfin en tout cas ça se manipule assez facilement dès qu'on a un peu de gens derrière nous. Donc les algorithmes sont jamais parfaits et même si ça s'améliore à un moment, enfin c'est un faux débat. Je pense que ça vaut pas la peine d'en parler.
Alors, on va finir d'explorer le sujet avec les algorithmes de Facebook qui permettent de lutter contre nos fameux putaclics qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Facebook a carrément ouvert cet algorithme pour que les développeurs tiers puissent participer à l'initiative et éventuellement capitaliser dessus. Alors, moi, ce qui m'a paru hyper intéressant en relevant les différentes news sur le sujet, c'est que, bon, évidemment, ça peut permettre d'améliorer le fonctionnement en lui-même de cet algorithme, peut-être de proposer des améliorations, mais surtout ça va pouvoir capitaliser sur d'autres éléments, d'autres algorithmes, notamment les outils de recommandation comme il peut y avoir sur des éditeurs de curation de contenu ou comme sur des Netflix par exemple. Moi j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir que ce type d'algorithme, et là c'est vraiment quelque chose qui me dépasse sur le fond du sujet et qu'on pourra d'ailleurs peut-être aborder en détail avec Guillaume Pogaspala, mais c'est des algorithmes et des fonctionnements d'intelligence qui sont comparables, que ce soit en termes de recommandations ou en tri de contenu. J'ai trouvé ça assez fascinant. Un petit mot aussi côté réseaux sociaux pour préciser que Snapchat va peut-être bientôt proposer de la publicité ciblée. Alors ça m'a paru hyper intéressant en termes de changement pour cet outil, parce que pour moi Snapchat ça restait jusque là, même si ça l'est de moins en moins pour pouvoir survivre dans la jungle des réseaux sociaux d'aujourd'hui, mais ça restait pour moi quelque chose qui permettait d'envoyer des messages de manière plus ou moins privatisé, on va dire. En tout cas, c'est un peu secret, je te le dis en chuchotant à l'oreille. Et donc, ça laisse imaginer à quel point on va pouvoir capitaliser sur les contenus qui sont échangés pour afficher de la publicité ciblée. Alors, c'est pas si simple, parce que Snapchat va aussi capitaliser principalement sur un bouton de connexion Snapchat, comme le fait aujourd'hui Facebook, vous le savez, hein, le Facebook Connect, ou le bouton J'aime, d'ailleurs, qui est implémenté sur pas mal de sites aujourd'hui. Ce sont des éléments qui permettent à Facebook d'avoir des aperçus en termes de parcours internautes, et c'est évidemment ce qui leur permet aussi d'améliorer et de capitaliser sur du ciblage publicitaire. Snapchat propose là aussi un bouton Snapchat Connect. Je suis pas certain que grand monde l'utilise, mais enfin ça peut être une belle évolution pour les réseaux sociaux. Pierre-Olivier, t'es pas sur Snapchat, je t'avais cherché.
Non.
tu veux pas ou c'est que non
okay. Va falloir qu'ils refassent leur interface graphique parce que je suis pas capable.
Oh, c'est parce que t'avais pas pris de drogue, c'est moche. Je t'avais pas trouvé non plus, Cédric.
Mais je m'y suis pas mis. En fait, je suis. Tu sais, j'utilise encore Hangout, donc à un moment.
Ah là là, le vieux.
C'est ça. Mais parce que ça me va bien finalement.
Oh, écoute, allez, on assume, c'est clairement assumé, donc ça va passer. Allez, on va lister pas mal d'autres petites news en vrac, je les enchaînerai, je vous laisserai l'opportunité, si vous le souhaitez, de réagir. Alors, on avait parlé de SpaceX, hein, vous savez, la boîte et du côté d'Elon Musk qui permet d'envoyer des satellites, de faire réatterrir la fusée derrière. C'était assez captivant de voir les tests qui étaient menés et qui fonctionnaient plutôt pas mal. SpaceX vient de vendre son premier lancement d'une fusée revenue sur Terre. Joli, bien joué, ça commence à être très concret. C'est un, oui. un peu d'émotion, Cédric, non ?
Alors, deux choses sur SpaceX. Je mettrai dans la note de l'émission une photo où en fait on voit donc le lanceur arriver sur la plateforme Of Course I Still Love You. Enfin, il y a deux noms, mais sur la plateforme navale, enfin maritime, sur laquelle il se pose, et on voit un homme à côté. Parce qu'en fait, quand elle se pose, bien évidemment, elle est tellement petite et avec des moteurs dans tous les sens, on évite de mettre des gens sur la plateforme pour pas qu'ils se fassent cramer. Mais en fait, on se rend plus compte du tout de l'échelle, parce qu'en fait, les seuls éléments d'échelle, c'est la plateforme, la mer et la fusée. Et honnêtement, on se pose sur une micro boîte d'allumettes, on verra pas la différence. Et en fait, il se trouve qu'elle est monstrueuse comme fusée quand on met un homme à côté. Donc, on se rend un peu plus compte de l'exploit technologique de venir aller poser un gros machin sur une toute petite plateforme. Donc, c'est intéressant de regarder ça. Vous l'aurez dans les notes de l'émission. Et puis, deuxième chose, effectivement, alors SpaceX avait déjà essayé et réussi un faux lancement d'un lanceur récupéré. C'est-à-dire que la poussée du premier étage dure, je crois, à peu près 90 secondes. Et donc, en fait, sur un lanceur récupéré et retravaillé, ils avaient fait un faux lancement sans fusée et le lanceur attaché, mais 90 secondes de poussée, comme si la fusée volait, mais elle n'emportait rien, elle restait au sol. Pour voir si, en gros, elle tenait deux lancements successifs après réparation, il se trouve que oui. Et là, effectivement, de mémoire, c'est prévu pour avril 2017, pardon, le futur lancement. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça pourrait rentrer dans une démarche d'économie de lancement et de démocratisation, c'était bientôt grand mot, mais en tout cas de réduction des frais significatifs pour envoyer des éléments en orbite.
Voiture connectée en service dans des services de transport. Trois petites infos sur le sujet. Uber, les premiers essais de course sans chauffeur commencent à Pittsburgh. Donc ça commence à prendre une bonne tournure, hein. Demain la société Uber pourra peut-être proposer plein de courses sans avoir à rémunérer des conducteurs. Les Renault Zoé, fleurons français, font désormais office de robot taxi à Singapour. Là encore, une avancée dans la conduite autonome pour transporter des visiteurs. Et puis Airbus, là ça m'a vraiment bluffé, qui veut carrément faire des transports de groupe autonomes volants. Donc on peut s'imaginer dans tous les bons films d'anticipation, dans tous les bons films de science-fiction, on a sur la Terre des vaisseaux qui vont d'une ville à l'autre ou qui vont faire des petits trajets. Moi ça me fait penser à une version très très moderne des gigantesques dirigeables incroyable. J'ai un souvenir dans Indiana Jones 3, je crois, il y a toute une scène qui se passe dedans qui m'a marqué petit. C'est beau en tout cas de voir que le transport autonome avance à grands pas. Je pense que d'ici quelques années, on verra plus du tout le fait de se transporter au quotidien, d'être transporté au quotidien de la même manière. T'as pu l'expérimenter, toi, Pierre-Olivier, tout ça d'une manière ou d'une autre?
Nous à Montréal, on a une compagnie de taxi qui s'appelle Théo Taxi, qui a que des véhicules électriques, dont évidemment une large. Même si ça n'a pas été annoncé, je pense que c'est pas mal évident que à un moment donné, l'objectif va être de retirer le chauffeur. Donc bon, voilà, je suis déjà monté dans une Tesla, j'ai déjà regardé, c'est cool. Conduite autonome, enfin, je pense qu'on en avait déjà discuté dans plein d'épisodes. Moi, je suis à fond pour. J'ai pas mon permis de conduire, j'ai pas l'intention de le passer. Maintenant, voilà, c'est clair que d'autres sur le sujet, c'est un petit peu plus ma crainte.
On va passer à quelque chose d'assez bluffant. Aujourd'hui, on est tous, quand on n'a pas comme moi un smartphone complètement explosé, les doigts rivés sur le clavier pour composer nos SMS, nos mails, saisir tout le texte qu'on saisit au quotidien sur nos smartphones. Et puis, une expérience a été menée par l'université Stanford qui s'appuie sur un logiciel de Baidu, qui est un grand acteur techno-chinois. Le logiciel s'appelle Deep Speech 2, donc on peut imaginer effectivement que rien que par le nom c'est bluffant, mais en tout cas la vidéo est assez étonnante parce qu'ils mettent en compétition deux personnes, une personne qui fait de la dictée vocale et une personne qui saisit au clavier. Alors aujourd'hui, si vous avez eu l'occasion de dicter à votre smartphone du texte, moi ça m'arrive assez régulièrement aujourd'hui, que ce soit sur Android, sur iPhone et même je pense sur Windows Phone, j'ai pas eu l'occasion de l'expérimenter, mais je crois savoir que la saisie vocale aujourd'hui va effectivement très vite. Par contre, ce qui va pas très vite, c'est la correction des erreurs, parce qu'évidemment le fait de différencier des homonymes, donc par exemple des C, S, E, S avec des C, C, E, S, etc., des mots qui à la voix ont le même son mais qui à l'écrit n'ont pas du tout le même comportement, c'est pas si simple que ça à comprendre. Et ce logiciel est bluffant par deux aspects: d'une part, la vitesse de reconnaissance de la voix, bien plus vite que quelqu'un qui tape au clavier, mais en plus avec un taux d'erreur extraordinairement plus bas que celui de la personne qui saisit au clavier. 2,8 fois plus grande pour un taux d'erreur, 63,4 fois plus petit, nous dit-on dans les articles. Assez bluffant. Pierre-Olivier, tu dictes ou tu saisis au clavier, toi, sur ton smartphone?
Je parle pas déjà aux gens au téléphone.
Mais quelle aigrie! Oh mais quelle aigrie! Donc toi, ça t'intéresse pas du tout cette mécanique de... Cédric?
Non, je dicte un tout petit peu, mais des micro-recherches, un petit peu des recherches, mais tu vois, la météo, au genre de choses. Je m'amuse avec des recherches imbriquées du genre quel temps fait-il à Tourcoing, et puis la question suivante c'est et demain, et en fait t'as pas besoin de lui rappeler et demain quel temps fait-il à Tourcoing, il trouve tout seul. Mais je suis pas en la dictée de mail ou de SMS parce que j'en ai plus.
Alors c'est rigolo parce que moi en mobilité ou quand des gens me regardent, bon, je suis comme Pierre-Olivier, hein, je vais pas m'amuser à dicter mon truc parce que déjà qu'on joue vachement sur le côté vie privée et le fait de garder nos informations pour soi, alors si c'est pour les dire à haute voix, je pense que ça vaut pas le coup. Par contre, chez soi, tout seul, dans des environnements où personne n'est autour de nous, dans son bureau si on a la chance d'être dans un bureau tout seul, moi j'ai tendance à beaucoup utiliser la dictée vocale pour saisir des mails, saisir du texte, et j'avoue qu'effectivement ce qui est le plus pénible, c'est de corriger derrière. Après, l'interprétation des termes en anglais dans les phrases en français, ça c'est vraiment l'enfer, mais je me rends compte que j'utilise de plus en plus ces fonctionnalités là j'en ai déjà parlé aussi, le fait de saisir mes listes de courses à la voix, je saisis plus mes listes de courses à la main, je les fais à la voix, et j'ai l'impression de gagner vachement de temps. C'est peut-être qu'une impression, vous me direz. 60. Alors, j'ai fait n'importe quoi en faisant mon copier-coller de ma news, puisque j'ai mis la liste de 68 comptes Dropbox circulent parmi les pirates. Mais c'est plus que 68, hein. C'est 68 millions.
C'est 69.
C'est ça, c'est 69. Oh, décidément, à chaque fois, on y a droit, Pierre-Olivier. Et en tout cas, la base de données de ces 68 millions de comptes Dropbox circulent parmi les pirates, sur le Darknet, diront certains. Et puis, Dropbox a réinitialisé les mots de passe, mais ils le font 4 ans après les faits. Pourquoi est-ce qu'ils réinitialisent les mots de passe 4 ans après, Pierre-Olivier? C'est pas un peu tard, quand même?
Ah si, c'est quand même carrément du foutage de gueule, ouais. Je vais dire, hey, ton compte est vide, on va t'envoyer une nouvelle carte, je pense que ta carte de crédit a été copiée.
Est-ce que c'est pas le fait que, en gros, les mots de passe étaient hachés et qu'il a été possible de les comparer avec d'autres bases de données et que, grosso modo, ça a été constaté et aperçu bien plus tard que le vol des comptes en eux-mêmes?
Bon, bah là, utiliser des Rainbow Tables, ça met pas 4 ans, hein. Mais quelques heures.
Hein. Bon, donc un peu tard pour Dropbox, dommage. Les règles de mise en application de la neutralité du net ont été précisées. Alors c'était un grand sujet. Au départ, il y avait une grande volonté de d'écrire dans les textes de la loi européenne la neutralité, les principes de la neutralité du net, quelque chose qui était très attendu et qui a été pas mal aussi contré par certains opérateurs et par plusieurs acteurs industriels. Et du coup, il y avait certaines interprétations qui n'étaient pas claires. Donc ça y est, là, ça a été éclairci. Grosso modo, la neutralité du net est complètement incontournable. Il y a quelques exceptions, celles qui concernent les flux qui sont considérés comme gourmands, donc par exemple la voix sur IP, la télé par le web, ou alors là j'ai été plus surpris en voyant ça, je savais pas que ça avait lieu aussi souvent que ça, les flux permettant de mener à bien des opérations chirurgicales à distance. Bah oui, c'est vrai que c'est pas mal si on peut éviter de ramer pendant une chirurgie du cœur gérée à distance par internet.
C'est surtout que moi la question que je me pose sur ces flux-là, c'est comment ils sont identifiés dans la masse de flux réseau. Enfin, c'est plus ça qui me...
Quelqu'un a une réponse, Pierre-Olivier, ou pas, non?
Bah, les chinois du FBI.
Ah bah voilà.
C'est donc ça. Non, j'imagine que c'est des histoires de protocole. Pour le coup, ce serait un élément intéressant à creuser. On reste un petit peu sur... On revient sur la sécurité, même s'il ne s'agit pas directement, à proprement parler directement de piratage. Xavier Bertrand, qui est le président du Conseil Général des Hauts-de-France, qui nous est si cher dans ce podcast, a fait vérifier que les locaux du Conseil Régional des Hauts-de-France ne comportaient pas de micro. Alors, dis donc, on est carrément dans un film d'espionnage, là, Cédric?
Alors, en l'occurrence, je pense qu'ils n'ont pas trouvé grand-chose. Mais quand ils ont demandé à la précédente majorité si c'est posé assez souvent, que ça les choquait pas, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Moi, spontanément, j'y aurais pas pensé. En même temps, quand on voit qu'il y a des fuites, typiquement, c'est arrivé, c'était pas tout à fait des microbes, mais quand notre cher président, qui ne sera peut-être plus pour très longtemps, est arrivé à l'Élysée, il n'a pas remplacé tout le personnel, comme ça se fait parfois, parce que pour avoir des gens un peu plus de confiance ou tout ça. Et il se trouve qu'il semblerait que quelques photos qui ont fuité de lui étaient liées à du personnel qui n'avait pas été remplacé. Donc est-ce que c'est une demande de la précédente, en l'occurrence de l'équipe de Nicolas Sarkozy, ou juste des gens qu'il n'aimait pas trop, ou alors c'est complètement montage, on ne saura jamais. Mais ça peut avoir du sens de se dire, quand tu as effectivement une région qui fait plus de 6 millions de personnes et qui pèse un certain poids, il peut y avoir des enjeux économiques sur des partenariats avec d'autres régions du monde, avec des grosses entreprises, parce qu'il y en a quelques-unes dans les Hauts-de-France, ça peut avoir du sens de vérifier ça, mais c'est qu'une simple vérification en général.
En tout cas, ça coûte 5000 euros, nous ont-ils dit, et je me dis, si ça coûte que 5000 euros, à combien peut-on chiffrer le fait d'avoir des informations qui fuitent? Moi, je trouve que c'est carrément du bon sens et c'est probablement quelque chose qui devrait généraliser. D'ailleurs, si cette prestation ne coûte que 5000 euros et a un certain nombre de garanties, j'imagine parce que c'est fréquemment demandé, c'est fréquemment commandé. Mmh. Deux news un petit peu what the fuck pour conclure ce tour de news de Tech Café. L'assemblage automatique. Alors, c'est un petit peu le principe what the fuck de l'assemblage des appareils. J'ai été complètement bluffé. Imaginez-vous, vous mettez en gros, je sais pas, 5 morceaux de smartphone, vous les mettez dans une machine qui ressemble à une machine à laver. On espère pas exactement comme une machine à laver, mais sur les mêmes principes, un tambour qui tourne. Vous fermez la boîte, vous appuyez sur un bouton, vous laissez tourner, et au bout d'un moment, ding, vous rouvrez votre machine et vous avez un appareil clé en main, complètement assemblé. C'est assez magique, et en même temps, est-ce que c'est quand même pas un petit peu ridicule? Tu l'as vu cette news, Pierre-Olivier?
Non.
Cédric, t'avais vu?
Non, j'ai pas vu. Je te remercie de m'avoir sorti ce fantastique article. Je regarderai la vidéo. Après, je vois pas bien l'intérêt smartphone par smartphone. Je me dis que s'il y a que 5 pièces, autant
alors voilà, l'idée elle est là. Hein. L'idée c'est que c'est justement sur le nombre d'appareils et que c'est juste une démonstration de principe qui montre que l'assemblage en tant que tel sur quelques pièces, évidemment, ça peut porter à rire. Maintenant, si demain on imaginait un principe, parce que tout ça fonctionne avec des assemblages, avec des éléments de type aimante, vous savez, comme on a vu sur le projet ARA, par exemple, le méthode d'attachement des différents éléments qui constituent l'appareil. Si on imagine qu'un appareil, quel qu'il soit, pas forcément un smartphone hein, d'ailleurs, est constitué de plusieurs dizaines de pièces et qu'il n'y a pas besoin de les assembler et qu'il suffit de les mettre dans une machine qui fait tout tourner toute seule et qui les assemble, on peut imaginer qu'effectivement les lignes de production de différents appareils dans l'industrie pourraient être assez bouleversées. Mais évidemment, on en est au stade très expérimental et je ne suis pas certain qu'à très grande échelle, ça puisse arriver de sitôt. Et puis, on sait qu'il y aura la conférence Apple, on l'a dit tout à l'heure, le 7 septembre, où devrait probablement être annoncée une Apple Watch 2. En tout cas, ce que ne sera probablement pas cette Apple Watch 2, c'est Signal. Je suis désolé pour la prononciation, ça s'écrit S-G-N-L, Signal. et c'est un projet Kickstarter. Imaginez-vous avoir un bracelet avec une montre analogique, connectée, intelligente, ce que vous voulez. Et puis ce bracelet fait que quand vous vous enfoncez l'index dans l'oreille et que vous avez votre pouce près de la bouche, eh ben, vous pouvez téléphoner avec votre main. Donc Pierre-Olivier, toi tout à l'heure qui disais qu'il n'utilisait pas la dictée vocale parce que tu parlais même pas aux gens autour de toi, est-ce que tu t'imagines en public te mettre un index dans l'oreille pour téléphoner ? Je suis pas certain que tu appelles souvent d'ailleurs.
Non, j'appelle personne, mais en plus, je trouve ça absolument socialement très bizarre là, cette histoire de doigts. Je pense que les gamins vont être ravis, mais à part les gamins, bon voilà, j'espère qu'il y aura personne.
Et on imagine que tout le monde le mettra dans l'oreille, bien entendu. On va passer au bonus. Pierre-Olivier, est-ce que tu nous as préparé un bonus pour ce tech café matinal ?
Ouais, moi j'ai regardé les derniers épisodes et puis j'ai pas l'impression qu'on ait parlé de fuchsia. Est-ce que vous connaissez fuchsia ?
Non, et on attend que toi pour nous en dire plus.
Donc en fait, il y a quelques semaines de ça maintenant, sur plusieurs sites qui surveillent les dépôts GitHub de Google, il y a eu cette nouvelle d'un nouvel OS qui se serait caché parmi les équipes de... Du coup, évidemment, la course à l'information s'est enclenchée à force de regarder les dépôts GitHub, d'essayer de compiler le bordel, de comprendre qu'est-ce que c'est que cette merde. Les infos qu'on a, c'est que déjà, il y a du gros monde dessus, puisqu'il y a des gens qui ont fait à la suite BOS, DangerOS, donc l'ancêtre d'Android, iOS, Android, t'appelles le truc pourri là chez HP, WebOS, voilà. Donc quand même des gros noms du monde des systèmes d'exploitation. Donc ils ont conduit un OS qui est basé sur un noyau temps réel. Donc le temps réel, ça veut pas dire que les choses vont vite, ça veut dire que les choses, on peut les prévoir. On peut dire exactement à quel moment telle instruction va être jouée sur le processeur. Et donc, par exemple, on peut déterminer 2 heures à s'exécuter ou 3 millisecondes, contrairement aux OS qu'on utilise actuellement sur nos smartphones ainsi que nos ordinateurs, qui font au mieux en fonction des ressources qu'ils ont. Là, c'est un OS qui garantit le temps d'exécution. L'autre chose qu'on a pu percevoir au travers de Fuchsia, c'est que l'interface graphique a des fonctionnalités qui sont assez intéressantes et inhabituelles, puisque on peut lier un bout d'interface aux différentes positions aux différentes données remontées par des capteurs, et donc on peut imaginer assez facilement avoir des interfaces de lunettes connectées ou ce genre de choses avec de la réalité augmentée ou encore de la réalité virtuelle. Donc c'est un truc assez intéressant. Il n'y a pas eu d'annonce officielle côté Google, simplement l'un des ingénieurs a répondu à toutes les questions. Même réponse.
C'est open source, alors on l'a publié, mais on ne fait pas de commentaires.
Donc voilà, on ne sait pas ce que Google a en tête avec le développement de cet OS. On sait juste qu'il a commencé il y a déjà plusieurs années et qui, semble-t-il, se destine au monde des objets connectés.
Bah, c'est un sujet en devenir de toute façon. Hyper intéressant. Merci Pierre-Olivier pour ce rappel à l'ordre des actus. Cédric, est-ce que tu as un petit bonus?
Et même deux bonus. Le premier ira très vite. Je suis tombé par ma petite sœur qui n'est pas pour le coup une geek, mais sur un concurrent de Litchi que vous connaissez, le système de cagnotte en ligne qui permet de financer des cadeaux à plusieurs de manière assez simple, mais qui a l'inconvénient d'avoir une ponction des frais pour une bonne partie de l'argent qu'on récupère de l'ordre de 4%. Donc un concurrent qui s'appelle Morning.com, qui s'appelait Payname.com. Alors peut-être que tout le monde connaît, mais moi je ne le connais. J'ai utilisé, ça marche plutôt bien, c'est assez sympa. Il y a pas toutes les options de Litchi, mais pour un truc gratuit, c'est plutôt pas mal. Et en fait, leur modèle n'est pas la cagnotte est un bonus, mais le modèle semble être plutôt une logique de portefeuille en ligne du type PayPal, et on te propose en plus une cagnotte en ligne. Donc essayez, enfin vous pouvez aller regarder et pourquoi pas l'expérimenter sur le prochain pot de départ à la retraite de votre chef. Voilà. Le deuxième bonus, c'est un produit et qui s'adressera aux sportifs du dimanche parmi vous. En l'occurrence, c'est un vélo électrique et pliant qui est en financement participatif à un prix dérisoire parce que pour un prix public annoncé d'environ 2 000 $, les modèles en financement participatif sont plutôt entre 600 et 750 $, donc c'est assez faible pour des specs qui sont vachement sympas. C'est un produit conçu par des Danois, donc des gens qui connaissent. Et moi, ça me fait pas mal de l'œil. Donc, c'est plutôt sympa. Il y a 3 modèles. Allez voir. Vous aurez le lien dans les notes de l'émission.
Ça va être un appareil à tester et à faire gagner, ça.
Mais carrément, carrément.
Bon, moi, je vais pas m'attarder juste sur le fait que Google Apps sont enfin compatibles split screen sur iPad, et ce qui m'a permis de préparer l'émission entièrement sur l'iPad. Donc voilà, ça faisait longtemps que je voulais le faire et je vous partage ma joie à ce sujet. On va terminer l'émission juste avant de rappeler où on peut retrouver chacun d'entre nous sur Internet. On va souligner les nouveaux types qu'on a eus depuis le dernier épisode. Il y a Jonathan Alpey, alias Suriteka, Podsource, Jérémy Ozog, Bensi, Jérôme, Karthing, Suriteka encore, Olivier Tipe, Karthings, et je crois que c'est tout. Et merci beaucoup à eux de contribuer au financement de l'association Tech Café et au fonctionnement du podcast. On va faire un petit tour pour rappeler où est-ce qu'on peut vous retrouver les uns les autres quand on a envie de discuter avec vous, essayer d'approfondir un sujet. Pierre-Olivier, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part ? Sur Snapchat ? Non ? Mais ?
Du Facebook essentiellement en fait.
Ah, c'est intéressant ça. C'était, oui, ok, Facebook. Merci Pierre-Olivier. C'est plus Google Plus.
Ben je, voilà, j'en ai marre. Partage des photos de poney.
Tu sais, petite parenthèse, on avait longuement parlé de la mort de Google Plus à plusieurs reprises. Tu nous avais parlé que ça ne mourra pas. Et l'autre jour, j'ai vu des news passer en montrant que Google allait réintégrer toutes les notions de Google Plus dans YouTube. J'ai trouvé ça captivant, ce qui donne encore du crédit à ta thèse, Pierre-Olivier, que je souscris complètement. Cédric, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, sur le web?
Plutôt sur Twitter, @7sib, CEDSIB, ou éventuellement sur LinkedIn, mais arrêtez de me contacter. Enfin, moi, tous les commerciaux qui me contactent, ça devient chiant à un moment. Enfin, contactez des gens que vous avez vraiment des choses intéressantes à leur dire, parce que. Ouais.
C'était le coup de gueule final de Cédric. Merci beaucoup. Vous pouvez me retrouver pour ma part sur Twitter, sur Facebook, sur mon site, où vous voulez, Guillaume Vendée. Et puis, évidemment, dans les podcasts, à savoir Tech Café, une fois tous les 15 jours, comme des poissons dans l'eau. Attention, il y aura du nouveau de ce côté-là. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt pour un prochain épisode. Ciao à tous. Voilà, c'est le moment où il y a un accessoire qui tombe, mais c'est pas grave du tout. En ce moment, tout tombe chez moi et tout se casse. C'est pas grave.